On va parler de syndrome d'alcoolisation fœtale avec Mme Annie Rivet, qui est la présidente directrice générale. Bonjour, Mme Rivet.
Bonjour et merci de m'accueillir.
Alors, on prononce votre organisme, le nom de votre organisme, on le prononce comment?
Ça fera.
Ça fera. Est-ce qu'il y avait une idée en arrière de tout ça quand vous avez...
Oui, en anglais, on disait « that's enough ».
Oui, oui, oui. OK.
C'est « ça fera », parce que le « SAF » au départ, syndrome d'alcoolisation fœtale,
oui.
Et ça faisait, comme on disait à l'époque, de
oui.
la création de « ça fera » en 1998, parce qu'il n'y avait aucun service. Les personnes qui ont fondé « ça fera » l'ont fait dans le but d'aider leur enfant qu'ils avaient adopté et qui avait un syndrome d'alcoolisation fœtale, et personne ne connaissait ça au Québec.
Ah, mon
Donc,
Dieu!
Donc, ça fait 23 ans que ça fera existe. Et je vous dirais que c'est un peu mieux. On a travaillé très fort, mais on a encore beaucoup de travail à faire.
OK. Rappelez-moi un petit peu, qu'est-ce que c'est le syndrome d'alcoolisme fœtal?
En fait, on dit d'alcoolisation fœtale
okay.
parce que on peut pas. Le bébé ne prend pas d'alcool lui-même. Dans le fœtus, il ne prend pas d'alcool lui-même.
Okay.
En fait, le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale, c'est l'ensemble des troubles qui peuvent être causés par la consommation d'alcool de la femme durant la grossesse. En petite quantité ou en grande quantité.
Ah, je pensais que la quantité pouvait avoir un impact important.
Bien, en fait, je vous dirais que c'est sûr que plus il y a de quantité, plus il y a de risques.
Oui, évidemment.
Mais si il n'y a pas de consommation du tout d'alcool, bien, il y a le risque zéro d'avoir le syndrome d'alcoolisation fœtale. C'est 100% évitable. Et on ne peut pas, parce que ce n'est pas éthique, du tout, c'est pas l'éthique du tout de dire, bien, on va essayer de faire des tests sur les femmes enceintes pour vérifier quelle quantité d'alcool. Au niveau de la santé publique, bien, en 2016, la santé publique du Québec mentionnait que pour des raisons de non-connaissance, puis on fera pas de test comme on dit, sur le sujet, bien, c'était, l'abstinence était vraiment recommandée. C'est comme un peu la roulette russe. On peut dire qu'il ne peut rien se passer, mais on peut aussi dire qu'il va se passer quelque chose pour une petite quantité. Ça dépend de plusieurs facteurs, dont l'âge de la femme, son état de santé, le nombre de grossesses. Et il y a plusieurs autres facteurs associés à ça.
Okay.
Mais finalement, la meilleure solution pour le remède, comme on dit, c'est l'abstinence.
OK. Et comment ça se manifeste auprès de l'enfant qui naît?
Bien, en fait, je vous dirais qu'il y a plusieurs manifestations possibles. Par contre, c'est parce que, justement, c'est variable, dans le sens où que le moment de la consommation, au moment de la période de, je dirais, gestation, finalement, la période de grossesse, parce que c'est sûr qu'on n'est pas des animaux, mais on est quand même des humains aussi. Et l'idée, c'est que de dire que, dépendamment de la période de la grossesse, ben ça peut varier les problématiques. Par contre, au niveau du fœtus, ben quand il naît, le bébé, il peut avoir des troubles de sommeil, de propreté tardive ou absence complète de propreté, difficultés motrices, des problèmes de succion, des problèmes de retard d'apprentissage, l'hypotonicité, l'absence de manifestation de la faim, l'hypersensibilité, la microcéphalie. Puis quand il est plus tard à l'école, bien il peut avoir des problèmes de mémoire à court terme, d'apprentissage, d'attention, de concentration, de motricité, de régulation de l'affect et du comportement, des communications sociales, du langage expressif et réceptif, contrôle des impulsions, hyperactivité, jugement. Je peux continuer.
Ouais.
Comprenez-vous que c'est variable parce que madame, il y a une étude dernièrement, en 2018, en Ontario, parce que en Ontario, il y a beaucoup d'études sur le sujet, et Mme Svetlana Popova, qui est une chercheuse, a découvert qu'il pouvait avoir des problématiques associées. Il y en aurait 400.
Oh, mais ça ne doit pas être facile de faire le lien entre une de ces 400 conséquences et la possible consommation d'alcool pendant la grossesse?
Vous avez totalement raison, monsieur. Ce qui est très difficile, c'est de faire un diagnostic précis s'il n'y a pas les traits physiques, s'il n'a pas le SAF, le syndrome d'alcoolisation fœtale.
OK.
Parce que les traits physiques sont plus facilement détectables. Mais de toute évidence, il faut absolument avoir une équipe multidisciplinaire qui connaît le TSAF pour poser un diagnostic. Et surtout, il ne faut pas faire paniquer toutes les femmes à travers le Québec, là. On s'entend? Ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas parce que votre enfant a un trouble de TDAH, puis vous dites, ben moi, je n'ai pas consommé. Ben oui, vous n'avez pas consommé, madame. C'est pas ça, là. C'est le fait qu'il peut avoir des troubles associés à ça.
OK.
Et le principe, c'est que là, je vais changer un peu de ligne. Je vais parler de la stigmatisation de la femme par rapport à sa consommation.
D'accord. Maintenant, on a 3 minutes pour compléter l'entrevue. Puis j'ai une autre question importante par rapport au colloque. Alors non, allez-y avec votre stigmatisation.
Je vais finir en disant que on stigmatise la femme par rapport à l'alcool. Mais puis sa consommation durant la grossesse. Mais il y a 48 % des femmes, selon les statistiques de l'IG, qui a été faite en 2020, sur le fait qu'il y aurait 48 % des femmes qui n'auraient pas de continuité de service au niveau de sa consommation d'alcool durant la grossesse. Donc, ils poseraient pas les médecins ne poseraient pas de questions à ce sujet-là.
Oui, bien sûr.
Et le fait de dire que si la société était plus au courant de cette problématique-là, ben les frères, les sœurs, les amis, les patrons offriraient pas une consommation d'alcool à la femme enceinte en minimisant les problématiques, pas par méchanceté, mais par méconnaissance.
Fait
que ça devient un problème de société.
OK. Mais j'ai l'impression aussi que les femmes et les hommes sont plus conscients de cette possibilité-là. On entend souvent les femmes qui n'ont pas encore annoncé qu'elles étaient enceintes dire « ben non, je vais prendre une eau minérale à la place ».
Ben, il y a 40 % des grossesses qui seraient non prévues.
OK, je comprends. Je comprends.
Dans le fond, c'est toujours selon les sondages, là,
oui.
Mais quand même, ce serait non planifié.
Okay.
C'est sûr qu'il y a toujours un risque.
Il nous reste 1 minute et demie et je voulais que vous parliez du colloque qui va avoir lieu le 17 septembre prochain.
Alors, le colloque SOS-TSAF du 17 septembre prochain, c'est un colloque virtuel dû à la pandémie. Il est bilingue avec la traduction instantanée français à l'anglais,
okay,
avec une participation financière grâce à l'OPHQ. Il y a plusieurs objectifs, donc exposer la réalité des gens qui vivent avec le TSAF ainsi que leur famille, travailler sur le dépistage précoce afin d'offrir des services, parce que c'est pas une fin en soi d'avoir un TSAF et de vivre avec, on peut améliorer la situation. Accroître la compétence des intervenants, c'est essentiel, autant les médecins, dans leur cursus, ils en ont pratiquement pas au Québec, les médecins, les intervenants, les professionnels de la santé, professionnels de l'éducation. Promouvoir aussi le TSAF auprès des instances, c'est très important.
Et comment on s'inscrit?
En fait, on s'inscrit par Internet.
Oui.
On va sur sostsaf.net et ça nous permet de s'inscrire avec comme la vague vous parlez, parce que dans le fond, notre petite vague, c'est comme... c'est invisible, c'est de l'eau, ça coule, on s'en rend pas compte, mais le TSAF est là.
Je vous souhaite un très bon colloque et beaucoup de bons services. Merci.